Donc, je donne la parole à l'un de vous trois. Qui vous voulez commencer? C'est au choix. Le père Mathieu? Donc, vous avez quelques minutes.
Merci beaucoup. Et merci beaucoup de cette invitation. J'avais reçu ce volume sur les minorités créatives comme un cadeau du père Mainviel à la fin d'une journée d'études de ce genre il y a 2 ans où j'étais venu parler de l'homo politicus au XXIe siècle. Et j'étais très, très intéressé et très heureux de la découverte de ce livre. Alors je voudrais proposer d'abord 3 remarques introductives et puis ensuite 3 séries de remarques et une petite conclusion autour de ce thème des minorités créatives. L'objet principal de ma réflexion est de voir comment ces 2 termes, minorité créative, sont à comprendre de manière dialectique l'un vis-à-vis de l'autre. Première remarque introductive, c'est un souvenir lié à ce texte qui est mis en annexe du volume, tiré du sel de la terre, où celui qui n'était encore que le cardinal Ratzinger, si j'ose dire, évoquait une phase nécessairement minoritaire ou ultra-minoritaire du christianisme en Occident. Et quand j'avais lu ce texte, cela m'avait impressionné. Et quelques temps après, je suis devenu le secrétaire particulier du cardinal Lustiger, qui n'avait pas la même vision. Le cardinal vivait dans une forme de certitude spirituelle que le catholicisme français retrouverait une vitalité, y compris numérique, plus forte que ce qu'on imaginait. Et quand je suis devenu secrétaire du cardinal Lustiger, à l'automne 2000, nous étions en train de préparer les conférences de carême de Notre-Dame de Paris, et le cardinal voulait conclure le grand jubilé, ou poursuivre le grand jubilé, par un tour du monde de la vitalité du catholicisme. Et donc, il avait invité 5 cardinaux ou évêques des 5 continents. Tout cela était bien organisé, mais restait à imaginer la conclusion de ce cycle. Et dans un premier temps, il avait été évoqué que lui-même fasse la conclusion. Et puis, il avait décidé qu'il voulait faire venir un cardinal romain pour donner une vision synthétique universelle à ce cycle de conférences de carême. Et la question était de savoir qui inviter. Donc, nous passions régulièrement en vue pendant plusieurs jours tous les cardinaux romains possibles et imaginables, ce qui permettait d'ailleurs au cardinal de formuler des jugements toujours pleins de charité, mais parfois d'une charité légèrement acérée. Et l'hypothèse qui tenait la corde, c'était d'inviter le cardinal Ratzinger. Le cardinal me disant, au moins lui, il a quelque chose à dire, mais en même temps, il y avait un point de débat fondamental entre eux, qui était précisément celui-là. Est-ce qu'il fallait être dans une vision d'un catholicisme traversant une période minoritaire, ou est-ce qu'il était plus juste de se mettre dans une volonté beaucoup plus large? Et le cardinal Lustiger m'avait dit cette différence assez radical finalement dans l'analyse avec Ratzinger sur ce point. Et puis finalement, nous avons invité le cardinal Ratzinger qui a fait une conférence très intéressante. Et en même temps, le cardinal Lustiger n'avait pas une vision plus positive, disons, sur la crise que traversait notre époque. Je pense d'ailleurs qu'il a été un des grands électeurs de Ratzinger au conclave suivant, mais pour d'autres raisons sans doute. Je laisse ça de côté. Mais en tout cas, cette question qui se pose et qui est peut-être le pendant dans le catholicisme d'un débat récurrent dans le protestantisme. Dans le protestantisme, notamment évangélique, s'affronte de manière assez construite une vision multitudiniste. L'Église, au sens protestant du terme, appelée à former un grand peuple, ou une vision plus communautariste, la prédication étant appelée à susciter des petites communautés d'hommes et de femmes qui se laissent saisir par le Christ ou qui ont été touchés par lui dans l'imprévisible de sa grâce et qui ne prétendent pas construire un immense peuple qui serait en quelque sorte une construction humaine à côté de l'initiative de la grâce divine. Et donc il me semble qu'il y a là au moins une question qu'il faut garder en tête. Deuxième point d'introduction, Jean Duchesne, fondateur de l'édition française de Communio, un laïc chrétien très actif depuis de nombreuses années dans le catholicisme français, qui a été le conseiller intellectuel, éditorial et anglophone du cardinal Lustiger, qui demeure proche du cardinal 23, vient de publier un petit ouvrage qui s'appelle « Le catholicisme minoritaire, point d'interrogation, un oxymore à la mode ». Donc une contradiction dans les termes, dont tout le monde ferait ses choux gras. Et d'ailleurs, il cite l'ouvrage « Les minorités créatives » dans son introduction. Deux remarques de Jean Duchesne méritent d'être évoquées, me semble-t-il, pour notre réflexion d'aujourd'hui. D'une part, il le dit avec l'humour un peu corrosif qui est le sien et de beaucoup de ses compagnons de Communio, qui, du haut de leur normalité ou normalitude, jugent tout le monde d'un petit peu haut. Eh bien, je cite, « Le problème, si l'on veut bien y réfléchir deux secondes, est qu'il ne suffit pas d'être minoritaire pour être créatif. » Et donc cette expression va peut-être un peu vite à imaginer la capacité créative des catholiques d'aujourd'hui. Et puis d'autre part, il fait remarquer que dans l'expression « une minorité », et là je serais très intéressé d'entendre les réactions des pères Granados et Noriega, dans une minorité, il y a une sorte d'homogénéité qui n'est pas exactement le fait de l'Église, qui est très variée dans les cultures, dans les histoires spirituelles, dans les tempéraments spirituels, dans les modes d'engagement. Et donc, le mot minorité peut prêter à confusion dans ce cas de peut-être trop globalisant. Enfin, sur le fait même de l'Église comme minorité, je crois que c'est important de voir que les faits ont apporté un démenti à l'hypothèse généralisée dans les années 70-80 d'un effacement progressif des identités religieuses. Même si l'identité qui se manifeste le plus de ce point de vue-là en France aujourd'hui, c'est l'islam, il y a, malgré tout, contrairement à l'espèce de comtisme ordinaire des Occidentaux, hein, Auguste Comte, après l'âge religieux, l'âge de la raison et l'effacement inscrit dans le sens de l'histoire de l'appartenance religieuse, eh bien, nous voyons que le fait religieux demeure prégnant. J'ai eu un débat il y a quelques semaines avec plusieurs personnes, dont l'actuel directeur du Monde des Livres, très intéressant, Jean Birnbaum, qui je pense est juif, mais qui pense les questions religieuses de manière assez nouvelle dans le contexte intellectuel français, et Marcel Gauchet, avec sa théorisation du christianisme comme religion de la sortie de la religion, auxquels les catholiques ont apporté un soutien sans concession et parfois sans réflexion, qui lui-même accepte d'être un peu critiqué dans cette vision d'une sécularisation inéluctable qui effacerait les identités religieuses. Alors, la question que je voudrais un tout petit peu ouvrir maintenant, c'est comment, et ça rejoint exactement ce que disait le père Michelin, comment l'Église doit-elle se penser pour être féconde aujourd'hui, de la fécondité de celui qui est l'unique médiateur, la plénitude de la révélation. Puisque dans le titre d'aujourd'hui, rédigé avec la malice du père Michelin, il y a une minorité parmi d'autres. Et évidemment, toute minoritaire qu'elle puisse être à certains égards, l'Église ne peut pas se penser comme une minorité parmi d'autres, puisqu'elle est le corps, le rayonnement, la fécondité de l'unique médiateur, de celui qui est la plénitude de la révélation, pour citer Dei Verbum. Première remarque, l'Église, pas si minoritaire que cela, est, sous-titre de cette première brève partie, la responsabilité culturelle des chrétiens. La responsabilité culturelle des chrétiens. Il y a un paradoxe français, je demande pardon à nos les amis non français aujourd'hui. Sans doute, la France est-elle un des pays les moins religieux au monde, où la laïcité est pensée de la manière la plus restrictive, en tout cas par certains. Donc sans doute un des pays les moins religieux au monde et un des pays les plus catholiques du monde. Heureux comme Dieu en France, vous connaissez ce verset de la poésie française. Et pourquoi ce pays si intensément catholique? Puisque la France est née de, pour le dire simplement, du baptême de Clovis. L'identité française et l'identité catholique, catholique précisément, parce que le baptême de Clovis, c'est un choix du catholicisme des Burgondes contre l'arianisme des Visigoths. L'Église est née dans son engagement catholique. Et donc il y a une compénétration de l'identité française et de l'identité catholique qui, en dépit de tous les soubresauts de l'histoire, demeure persistante. Persistante dans notre patrimoine culturel, dans notre langue, et c'était frappant de voir que constamment, même les plus laïcards des laïcards en France ne cessent, de manière consciente ou non, de convoquer des références chrétiennes dans leur manière de s'exprimer. Donc, dans le patrimoine culturel, les églises, la toponymie, le patrimoine iconographique, etc. Mais aussi, j'y reviendrai cet après-midi, dans notre culture au sens plus large, au sens que Jean-Paul II lui a donné dans son discours à l'UNESCO en 1980, c'est-à-dire dans le rapport de l'homme à son humanité, beaucoup de questions, de points d'ancrage de notre société française, de nos lourdeurs aussi, sont liées à cette culture chrétienne. Je pense à notre politique familiale, je pense à notre politique sociale. Tout cela est vraiment l'inscription dans notre culture de nos racines chrétiennes qui sont plus persistantes qu'on aurait pu croire. Et du coup, on voit même aujourd'hui des résurgences inattendues de cet enracinement culturel chrétien, par exemple dans la littérature. J'ai des auteurs qui, tout en n'étant pas des chrétiens confessants, parfois en étant en train de le devenir, d'ailleurs pour tel ou tel, eh bien, ne cesse de faire référence à et de chercher quelque chose de ce patrimoine. On pourrait évoquer aussi bien un Emmanuel Carrère qu'un Houellebecq à certains égards, que Jérôme Ferrari, pour citer quelques-uns. Et une des difficultés de la France d'aujourd'hui, qui donne aux chrétiens français une responsabilité particulière, c'est que beaucoup de nos compatriotes sont des étrangers dans leur propre pays. Pas parce qu'ils seraient nés ou leurs parents seraient nés de l'autre côté de la Méditerranée, comme on pourrait le penser spontanément, mais il y a beaucoup de Français de souche qui sont des étrangers dans leur propre pays parce qu'ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils sont. Or, sans la clé de la foi chrétienne, nous vivons dans un espace humain incompréhensible. Et une des expressions de ce malaise qui s'accompagne d'une crise terrible de l'espérance, c'est ces petits Bretons, ces petits Corréziens qui aujourd'hui partent faire le djihad en Syrie. Parce qu'il y a une sorte de malaise existentiel lié au sentiment d'être au fond des étrangers dans leur propre pays. D'où la mission providentielle pour les chrétiens de d'éveiller nos contemporains à leur propre identité en étant capables de rendre compte du sens de cette culture qui nous porte et qui continue de nous porter à certains égards. Et voilà pourquoi, c'est mon dernier point dans cette première partie, il me semble qu'aujourd'hui, il y a l'important pour l'Église dans cette dimension de minorité créative qu'elle est pour une part, de passer de la tentation contre-culturelle à l'exigence de se cultiver pour cultiver les autres. Passer de la tentation contre-culturelle à l'exigence de se cultiver pour cultiver les autres. Certes, il faut être capable d'une certaine attitude contre-culturelle, parfois, dans un monde qui est à bien des égards païen et qui attente à la dignité de la personne humaine, mais en même temps, la contre-culture, notamment dans son enracinement américain des années 60, est plutôt une remise en cause de la rationalité, de la capacité de l'homme à se transcender lui-même, et du coup, se penser qu'on satisfait à son identité chrétienne en se ralliant à la contre-culture, c'est à mon avis faire un contre-sens profond, et il y a au contraire une exigence culturelle d'investissement de la raison, j'y reviens dans un instant, c'est mon deuxième point, et de capacité à connaître, à aimer la culture qui nous porte pour en faire le point d'ancrage d'une évangélisation renouvelée. Donc, première partie, l'Église passe pas si minoritaire que cela, et la responsabilité culturelle des chrétiens. Deuxième point, l'Église avocate providentielle de l'universalité de la raison. L'Église avocate providentielle de l'universalité de la raison. Nous sommes en pleine crise de la rationalité, c'est un lieu commun de le dire, non seulement dans le domaine philosophique, mais de manière plus large dans la société qui nous entoure. Très souvent, aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas à plaider en faveur de la foi contre la raison, comme cela a pu être le cas à l'époque des grands débats intellectuels philosophiques, mais plutôt pour les droits de la raison dans un contexte d'hyperaffectivité véhiculé en particulier par les médias audiovisuels ou également les nouveaux médias dans leur rapidité. Le monde politique en France aujourd'hui, par exemple, est impressionnant de démission proprement rationnelle. On passe de posture de communication à posture de communication sans faire droit à l'investissement de la raison. Je me souviens d'un des principaux responsables politiques du Parti des Républicains, alors que j'évoquais ce point avec lui, se mettant en colère et en me disant qu'il était vraiment inutile de se faire des nœuds au cerveau. Degré zéro de la réflexion qui, malgré tout, malheureusement, est assez représentatif d'une situation contemporaine. Il me semble que les chrétiens ne seraient qu'une minorité, pour rester sur ce terme, s'ils succombaient à cette crise de la rationalité. Et en revanche, les chrétiens deviennent minorité créative à partir du moment où ils s'investissent sur le plan rationnel. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre ce que veut dire Jean Duchesne par l'oxymore du catholicisme minoritaire. Le catholicisme, en raison de la part qu'il donne à la raison, ne peut s'enfermer dans ce que j'appellerais le minoritarisme. Il peut y avoir un fait sociologique minoritaire, mais on ne peut pas se satisfaire d'une sorte de minoritarisme. Et certains, aujourd'hui, le théorisent sur un peu le mode d'un protestantisme évangélique de type communautariste, parce que précisément, l'universalité de la raison arrache le catholique a un enfermement identitaire clos. C'est d'ailleurs le grand thème de Ratzinger et Benoît XVI sur la purification mutuelle de la foi et de la raison. De la raison par la foi et de la foi par la raison. Il l'a encore redit dans son magistral discours de Berlin. C'est cette ouverture à l'universalité de la raison qui fait aussi cette solidarité des chrétiens à l'égard de tout ce qui se passe dans le monde. Le préambule de Gaudium et Spes, que vous connaissez tous par cœur, les joies, les espérances, les tristesses et les angoisses du monde de ce temps, des pauvres surtout, sont aussi les tristesses et les angoisses, les tristesses et les espoirs, les joies, les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'y a rien d'authentiquement humain qui ne les concerne au premier chef. Et dans ce préambule, il n'y a pas simplement une ouverture de la charité chrétienne, il y a aussi l'ampleur de l'universalité de la raison. Voilà ma deuxième réflexion, l'Église, avocate providentielle de l'universalité de la raison, et l'expression minorité créative qui rend compte de cela. Enfin, troisième réflexion, le père Michelin l'a anticipé tout à l'heure, que j'appellerais le paradoxe sacramentel. De ce point de vue-là, j'ai évoqué à l'instant le préambule de Gaudium et Spes, le préambule de Lumen Gentium doit continuer de nous accompagner. L'Église qui est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'unité intime, de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Il y a quelques années, une session commune de la faculté Notre-Dame, où j'enseigne, et de la faculté de Notre-Dame de Vie, autour de Vatican II, dont le père Michelin avait été un des artisans, et il y a eu une contribution extrêmement intéressante du père Patrice Sicard, qui enseigne chez nous, qui est un spécialiste des Victorins, montrant vraiment la nouveauté, en dépit d'une citation toujours reprise de Saint-Cyprien, de cette affirmation de Vatican II. L'expression « signe et moyen » me semble susceptible d'être rapproché des minorités créatives. Comme signe, l'Église, depuis le commencement, assume en quelque sorte une posture minoritaire. Elle ne prétend pas être de manière immédiate la réalité achevée d'un monde rassemblé parce que réuni avec Dieu. Nous sommes dans le temps de la grâce, pas dans celui de la gloire. Le royaume du Seigneur n'est pas de ce monde. Et en même temps, ce signe est fécond, agissant. Et ce signe est aussi un moyen, et c'est en cela que le signe, en un sens minoritaire, peut devenir créatif, peut devenir moyen. Et je crois très important d'enraciner toujours notre réflexion sur l'Église et sa fécondité dans cette affirmation quasi-sacramentelle, si féconde, de Vatican II, qui approfondit ce que l'Église porte en elle-même depuis le commencement. Les sacrements nous sont donnés pour le temps de la grâce, non pas le temps de la gloire, le temps de la transformation progressive et aussi mouvante de l'humanité par le Seigneur dans l'attente et la préparation de sa gloire. Du coup, tout dans l'Église est sacramentelle et tout a en quelque sorte la modestie des signes sacramentels. La modestie du pain et du vin qui dit de manière très ténue finalement la vocation de tous les hommes à se rassembler dans le corps du Christ et de tous les hommes à participer à la joie éternelle que le vin de l'Eucharistie annonce et commence de donner. Mais en même temps, les sacrements ne sont pas un pur signe effacé, ils sont un signe fécond, un signe puissant, un signe qui annonce vraiment les temps eschatologiques. Et de ce point de vue-là, les messes gigantesques des voyages pontificaux depuis Paul VI, et nous venons d'en avoir quelques exemples extraordinaires avec le voyage du pape François au Mexique, sont des signes extrêmement forts et uniques dans tout ce qui fait la vie des nations, au-delà des grands événements sportifs, évidemment, même si on peut les enfin, s'il y a une discussion autour de ça, hein, de rapports, presque le débat entre le christianisme et le stoïcisme, entre ce que les grands événements sportifs organisés par l'humanité et leur forme de célébration et aussi de communion et les grands événements spirituels. Mais malgré tout, nous avons à penser la puissance des sacrements et donc il y a encore une fois une sorte de minoritarisme entretenu qui est dénoncé par cette logique de puissance sacramentelle annonciatrice de la vie éternelle à l'œuvre dans les sacrements. Alors je voudrais conclure ma petite introduction, j'en suis à 21 minutes, donc j'ai encore 3 minutes pour conclure, en proposant une autre petite dialectique, qui est celle de la dialectique de la catholicité et de l'orthodoxie, qui prend évidemment une force particulière, nous l'évoquions au petit déjeuner, quelques jours après cette rencontre historique, complexe dans sa réalisation, mais quand même très très forte sur le plan historique, entre le patriarche de Moscou et le successeur de Pierre. Notre identité chrétienne est à la fois orthodoxe au sens large du terme, au vrai sens du terme, et catholique au sens vrai et large du terme, c'est-à-dire l'appartenance droite à la foi, qui peut de temps en temps nous conduire à une attitude minoritaire, qu'il faut assumer très paisiblement, et en même temps une exigence d'universalité, la dimension catholique. Et nous avons, pour être pleinement chrétiens, à être et catholique et orthodoxe. Je ne le dis pas évidemment en pensant aux Églises elles-mêmes, mais aux attitudes profondes, mais cela dit, le fait que ces identités se soient plus ou moins appropriées, aient été plus ou moins appropriées par les différentes Églises, dit quelque chose. Et de ce point de vue-là, je conclue par là, je voudrais évoquer ce qui est quand même un paradoxe mystérieux et qui peut-être, j'espère, sera dépassé dans la prochaine édition du Missel romain. C'est la façon dont les traducteurs français de la prière eucharistique numéro 1 ont évacué cette identité orthodoxe qui fait partie de l'antique prière eucharistique de l'Église. Puisque si vous avez en tête le début de la prière eucharistique numéro 1 du canon romain, en français, nous les présentons aussi pour notre pape François, pour notre évêque local, et tous ceux qui veillent sur la foi catholique reçue des apôtres. Alors, qu'en latin, dans le texte actuel du missel de Paul VI, comme dans le missel de Saint-Pie V d'ailleurs, « Et omnibus orthodoxis atque catholice et apostolice fidei cultorimus ». Bien, il me semble que pour être une minorité vraiment créative, il faut que nous puissions nous réapproprier le caractère à la fois catholique et orthodoxe de la foi reçue des apôtres. Merci.